maintenant un bon bois de casse.
Maintenant un bon bois de casse.
Et maintenant un bon bois de casse.
Et bonjour à toutes et tous, c'est Cédric Lefebvre, donc le co-créateur de Ludonaute. Bonjour Cédric.
Bonjour.
Qui nous accueille sur son stand et qui nous présente la sortie essénienne de cette année, donc 2011, puisque c'est Chiteno. Alors juste pour replacer l'histoire, Ludonaute, on l'a vu arriver avec Offrande, qui est un jeu de Cédric Lefebvre.
Moi-même.
On l'a vu arriver ensuite avec Yggdrasil, qui est de Cédric Lefebvre, et de Fabrice Rabellino, le fameux Cyberfab. Et maintenant Chiteno, qui est de Cédric Lefebvre.
Voilà, tout seul.
Alors là, on est dans une vague japonaise, japonisante.
C'est ça, on est dans le Japon médiéval, au moment de l'unification du Japon.
Oui.
Et où en fait on incarne donc les quatre Chiteno, qui sont qui doivent vouloir dire les quatre gardiens du ciel, en fait qui sont les shoguns, les samouraïs généraux qui ont aidé le shogun Tokugawa à unifier le Japon.
D'accord.
Et donc le but de ce jeu, c'est de tirer profit de l'unification de ce Japon pour rentrer dans les bonnes grâces du shogun.
Ok. Et donc ça veut dire que chacun des joueurs va jouer un Chiteno.
Chacun des joueurs va jouer un Chiteno, c'est ça.
Et donc quelle est donc la mécanique? Je vois qu'il y a un plateau avec plein de zones différentes où j'imagine qu'on peut se déplacer.
Alors non.
Non mais moi je pose des questions.
En fait la mécanique centrale du jeu, c'est une mécanique de partage en fait, où le shogun va nous dire je vous file des troupes, je vous file des richesses. Avec ça, vous vous démerdez, vous allez me prendre le contrôle des provinces. Moi, j'ai assez bossé maintenant.
Il est vulgaire, le shogun, quand même.
Ouais, il était vulgaire à l'époque, le shogun. Hein, et... Voilà, maintenant, j'ai assez bossé. À vous de vous débrouiller. Et donc, à ce moment-là, le joueur qui a le plus haut rang, le plus d'honneur, va faire un lot avec des troupes, des richesses, comme il veut. Et une tuile de hiérarchie, en fait, qui représente le rang des joueurs, qui donc va être redistribuée. Donc il va faire ce lot, il va le proposer au joueur suivant, qui peut accepter ou refuser.
D'accord.
S'il accepte, c'est très bien, il le prend pour lui, il aura accès à ce tour-là. Mm-hmm. S'il le refuse, ça passe au joueur d'après. Si tout le monde le refuse, c'est celui qui l'a fait qui le récupère.
Okay.
Et donc comme ça, tous les joueurs vont être servis, vont récupérer donc un lot.
Oui.
Et donc après, avec ce lot-là, on va pouvoir prendre le contrôle des provinces, soit par la force des armes, donc en défaussant les troupes qu'il faut, soit en corrompant les hauts fonctionnaires, en leur donnant des titres de richesse.
D'accord.
Voilà.
Et donc ces fameux lots sont représentés sous forme de tuiles ou de cartes?
De cartes, là, en fait, où il y a les quatre types de troupes possibles, et où il y a la richesse, qui est en fait les cocu, qui est la quantité de riz qu'il fallait pour nourrir pendant un an une certaine quantité d'individus.
Okay.
Donc voilà.
Ok, et donc une fois qu'on a ces lots-là, comment est-ce que ça se déroule ensuite?
Alors ensuite, la deuxième phase est assez simple. Pour chaque province, il y a toujours soit deux, soit trois troupes fixes qu'il faut donner forcément, et puis une troupe qui va varier, qui va être une des quatre troupes qui est représentée sur une petite tuile en fait. Donc on défausse les cartes qu'il faut, on pose un Kamon, donc Kamon c'est l'armoirie, notre armoirie quoi. On marque des points et on prend justement cette petite tuile là qui va d'une part nous donner un petit bonus pour la suite, et d'autre part qui va du coup changer la quantité, le type de troupe qu'il faut pour prendre le contrôle de cette province.
Parce qu'en prenant la tuile du dessus, ça révèle une autre troupe.
Voilà, les tuiles qui sont en dessous. Au début du jeu, on stack trois petites tuiles les unes au-dessus des autres.
Et alors sur ces fameuses zones aussi, je vois des chiffres, 5, 6, 8, 11.
C'est les points qu'on marque quand on se place dessus. Quand
on gagne ses points directement.
On gagne ses points directement. Et en fin de partie, il y a pour chaque province une histoire de majorité où on va prendre 6 points de bonus pour le joueur qui est majoritaire sur la province.
D'accord.
Et en cas d'égalité, c'est le premier à s'être placé.
Okay.
Sachant qu'en général, quand on s'est placé en premier, on a pris moins de points que ceux qui sont placés en dernier. Donc voilà, il y a sans arrêt il y a des dilemmes et des « je le fais maintenant, j'attends un petit peu, je lui donne ça, je lui donne pas ça
». Ok, donc on attrape des points à chaque action, finalement, et le but du jeu est d'avoir un maximum de points à la fin de la partie.
C'est ça, tout simplement.
Okay.
Et voilà, le jeu se termine quand un joueur n'a plus de Kamon à placer, ou alors lorsque il n'y a plus de cartes coco à distribuer.
Donc finalement, c'est un jeu qui est assez rapide et qui est assez fluide.
Qui est assez rapide, qui est fluide, qui dure une petite heure, où vraiment, voilà, tout est articulé autour de la tension qu'il y a dans « je te propose ça, je veux pas que tu l'aies », etc. Et on essaie vraiment de que tout le reste en fait coule pour que ce soit cette phase-là qui, qui émerge et qui soit le principal du jeu. Quoi.
Exactement. Comment est né ce jeu-là ? Est-ce que c'était déjà un thème japonais quand tu y as pensé ?
Alors, non. En fait, presque. En fait, l'idée est venue...
C'était chinois.
Ouais, c'est ça, en fait. Au début, c'est la toute première idée, donc... C'est de la mécanique de partage et j'ai fait des cartes qui représentent en fait les différentes parties de la cité impériale. Et j'ai pris mes vieilles ressources de katane, donc on se distribuait du bois, de l'argile, de la pierre et on construisait les bâtiments avec. La première partie, c'est un de mes premiers protos qui a fait ça, c'est que ça marchait vraiment bien pour une première partie. Tout collait à peu près, bon forcément il y avait des réglages, hein. il y a eu quand même un an de réglages derrière, mais d'habitude on ne la finit pas, donc là on l'a fini, c'était merveilleux. Et puis bon, après on a pas mal tourné autour du thème. À un moment donné on était des moines Shaolin et on apprenait des techniques.
Pourquoi ? Parce que le côté ressources, le collecte de ressources était un petit peu...
Ouais, j'avais pas envie d'un jeu où on construisait des bâtiments, il y en avait beaucoup et oui, voilà. Okay. Donc c'est vrai qu'on était parti sur un truc là et après ça frustrait les gens de faire un jeu où on apprenait des techniques de combat mais où on se battait pas vraiment. Donc, du coup on a dit le thème va pas très bien, donc on a changé. On est passé un temps par des hommes préhistoriques qui allaient à la chasse et qui se partageaient le butin de la chasse pour apprendre ensuite les techniques de l'agriculture. Alors moi je voulais, ça a été le grand débat avec Anse, moi j'aimais beaucoup, mais je pensais qu'il fallait mettre les femmes comme ressources à se partager parce qu'à l'époque. Et donc je trouvais ça très fun d'apprendre la vaisselle, la couture et donc voilà. Bon, ça ne faisait rire que moi. Et...
Ça serait pas appelé chiteno mais macho tout court.
Voilà, c'est ça. Mais c'était très second degré. Hein,
évidemment.
Voilà, j'ai même prévu les explications. On pouvait avoir les cartes Koku, c'était des hommes qui servaient donc à rien.
Par définition.
Voilà, donc j'avais tout prévu, mais bon, finalement ça. Ouais. Et puis on s'est dit quand même, c'est bien. L'esprit de « je ne choisis pas en premier, j'offre aux autres ». Il y avait un petit côté japonisant. Moi, dans ma tête, j'avais aussi l'idée de faire un jeu aussi sur le Japon. C'était aussi un truc que j'avais envie de retranscrire ça l'esprit de dire « j'agis avec honneur, je ne veux pas les choses pour moi, je les laisse pour les autres ». J'avais envie de ça, et puis cet mécanisme et cette envie-là se sont croisés, et donc ont donné naissance à... Chitino tel qu'il est là.
Okay, mais tu parlais dans les prototypes d'un apprentissage d'une technique et de l'utiliser après. Comment est-ce qu'on le retrouve dans Chitino ?
Alors en fait, dans ce truc-là, c'était on avait des enseignements. J'avais fait l'enseignement du tigre, du dragon, de la grue, etc.
Du brocoli.
Voilà. Et puis pour apprendre la technique du super brocoli enflammé, il fallait défausser trois brocolis et un dragon. Et donc du coup, on apprenait la technique-là et on devenait de plus en plus puissant. Puis c'était sur des cartes à l'époque, c'était pas sur un plateau, il y avait un système de collectionnite, quand on avait plusieurs cartes du même type, on scorait de plus en plus de points, etc.
Et c'est le côté japonais, c'est quelque chose que tu aimes par définition, c'est une culture que tu aimes ?
Moi je suis assez manga, donc j'aime bien la culture japonaise là. J'aime bien aussi l'ancien, le médiéval. J'aime bien les bouquins parce que souvent c'est très retors dans l'esprit quoi. C'est par devant je suis bien et par derrière en fait j'en pense pas moins. Et donc j'aime bien ce côté-là quoi.
Le jeu a été illustré par
Vincent Dutré.
D'accord. Qui avait travaillé déjà sur
Tikal 2, Water Lily, là il sort Chak chez Gameworks, Mundus Novus chez Asmodee. Bien, ouais. Puis,
c'est une valeur sûre.
Quand on voit le résultat, vraiment très 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 content de on a vraiment fait un super travail ensemble et c'était vraiment super agréable et super bien quoi.
Alors, Ludonote, troisième jeu, où est-ce qu'on en est ? L'année passée, alors pour être très très clair, l'année passée on avait parlé du fait que on est toujours petit éditeur,
on s'est lancé avec Offrand qui a eu son petit succès critique et qui a marché. Après, commercialement parlant, on en avait de toute façon pas fait assez pour que ce soit rentable. Entre temps, donc à Cannes, on a lancé Yggdrasil. On a écoulé nos 3000 boîtes en Europe, en juin, il n'y en avait plus. Zedman, donc avec qui on avait coédité pour les États-Unis, je crois qu'ils doivent en avoir vendu 2000-2500. Et puis donc du coup on a relancé une prod d'Yggdrasil, donc là les boîtes qui sont arrivées fin septembre. Du coup on est distribué par Asmodee maintenant, donc voilà on a changé de distributeur, on va être distribué par Asmodee pour le retirage d'Yggdrasil et pour Chiteno. Oui. Et donc bah, Yggdrasil, voilà, le fait que ça a bien marché, ça nous a permis de relancer une prod, de pouvoir relancer un autre jeu derrière, en espérant que ça marche bien aussi, voilà. Et puis...
le changement de distributeur, vous étiez chez Zedman, bon, Asmodée est distribué dans les mêmes pays.
On était chez Intrafin pour Yggdrasil. Okay. Qui était un petit distributeur belge, oui, à la base. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de discussions avec pas mal de boutiques qui nous disaient on a envie des Yggdrasil, mais c'est pas évident parce qu'ils ont un petit catalogue, on a du mal à commander chez eux. Donc on s'est posé pas mal de questions là-dessus. Et puis au final, on a contacté Asmodée, ils nous ont dit qu'ils étaient intéressés par la distribution de nos jeux. Et donc l'avantage c'est que Asmodée ils sont partout, donc ça nous donnera...
Ça fait moins de négociations pays par pays.
C'est ça, ça va nous permettre. Après je pense qu'il faut quand même qu'on soit présent, qu'on fasse le job de com derrière, ils vont pas tout faire à notre place. Mais au moins quand les gens en veulent, ils n'ont pas de difficulté à en avoir. Quoi. Voilà. Après il faut que les gens en veuillent et ça c'est notre job à nous. Quoi. Voilà.
Alors Chiteno, c'est l'actualité essonienne 2011, ouais. Donc nous sommes au mois d'octobre. Sur les 6 mois qui viennent, il y a déjà quelque chose de prévu ?
Il y a... Alors pour l'année prochaine, de prévu, en fait on va sortir une nouvelle gamme de jeux. Deux jeux de cartes qu'on a prévu donc pour l'année prochaine, dans un boîtage un petit peu particulier, avec un univers un petit peu particulier. Ça va être très très bien.
Dont on dira rien.
J'espère. Voilà, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard quand on aura lancé, que tout sera bien calé et que voilà, on en a encore un peu au démarchage. Parce que voilà, comme c'est particulier, on va. Voilà, c'est pas simple. Donc on est en train vraiment de voir tout ça, de peaufiner tout ça. Et ça va sortir. Normalement, l'année prochaine, vont sortir deux jeux. Les deux jeux, je peux en dire deux mots. Il y a un petit jeu qui sera un jeu à deux. On va jouer des fantômes et on va devoir effrayer les gens dans une maison. Avec un petit côté un peu cité perdu, ou un jeu d'affrontement à deux, où on pose des cartes, etc. Et un autre qui sera un jeu d'enquête, qui va être à la frontière entre le jeu d'enquête et le jeu narratif, où il faut élucider une enquête criminelle, où les différents indices vont se dévoiler sous nos yeux petit à petit, et il va falloir trouver la solution, pourquoi lui a été tué, comment, par qui, etc.
Quand tu dis narratif, ça veut dire qu'on est proche du jeu de rôle narratif ou...
Ça veut dire qu'il va falloir vraiment inventer l'histoire. Après, quand je dis qu'on a la frontière entre les deux, c'est que ça va pas être un pur jeu narratif comme Petit meurtre et fait divers, Il était une fois, où le bagou prime avant tout. Là, il y a une grosse base qui est quand même les indices et on peut se permettre d'expliquer les choses plus calmement, même si on n'est pas très grand orateur. On peut quand même y jouer et ça peut quand même passer. Bon, moi, bien sûr, quand j'y joue, j'aime mettre de la narration parce que j'adore ça. Mais on peut y jouer même en n'ayant pas beaucoup de bagou, et ce qui, je pense, est une force du jeu.
Ça, ce sont des jeux qui...
Qui sont pas de moi, pour le coup.
Voilà, c'est ce que j'ai...
Voilà. Qui sont pas de moi, qui sont deux autres auteurs qu'on a rencontrés. L'un à l'occasion d'un salon, l'autre... Parce qu'il avait publié son jeu en print and play. On avait essayé, on avait trouvé ça bien, on l'avait contacté.
Ok, parfait. On vous suivra là-dessus, alors.
Voilà.
Merci, Cédric.
Merci beaucoup à toi.
Et à bientôt.
Et à bientôt.
Vous avez aimé ce podcast ? Alors appuyez sur la touche « Trop cool ». Vous n'avez pas aimé ce podcast ? Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.